18h, 19h. C'est vous qui le dites, présenté par la rédaction de Radio U. Vous êtes sur Radio U et c'est l'heure du C'est vous qui le dites, l'émission d'actualité locale et citoyenne de Radio U. Le printemps arrive tout juste, les températures se réchauffent légèrement, mais à contre-courant de la tendance, nous, on vous emmène ce soir en Antarctique pour le Festival Polaire. Un festival organisé par Océanopolis et l'Institut Polaire français Paul-Émile Victor, qui a ouvert ses portes hier et qui se tiendra jusqu'au 9 mai prochain. Pour en discuter avec nous, nous recevrons en deuxième partie d'émission Lionel Feuillasser, médiateur scientifique à Océanopolis. L'information ne vous a pas échappé. Les musées sont fermés, mais les galeries sont ouvertes. Un bon moyen de côtoyer des œuvres, de découvrir des artistes et de se frotter à la culture qui nous manque tant. Lucille Fontaine de l'Espace d'Art, le Comédia, nous a rejoint en studio. Et avec elle, nous allons explorer la programmation culturelle de ce lieu brestois dans les semaines à venir. Bonsoir.
Bonsoir.
Le cœur du Comédia en ce moment, c'est l'exposition Vision d'Afrique, que vous étiez venu présenter il y a quelques mois sur notre antenne. Est-ce qu'on peut, pour commencer, rappeler les origines de cette exposition ?
Bien sûr. Alors cette exposition, dans notre esprit, elle ne date pas d'hier. Hein. Elle a fait un long chemin, on va dire. Depuis l'ouverture du Comédia, pour ma part, il y avait cette volonté de proposer de l'art contemporain autour du sujet Afrique. Et puis pour Adeline de Montpezat, la responsable de programmation, cette idée remonte à 2015 avec l'exposition Beauté Congo à Paris.
Est-ce qu'on peut revenir, enfin avant de revenir en tout cas sur les nouveaux artistes qui vont rejoindre très prochainement l'exposition, est-ce qu'on peut revenir sur ceux qui sont déjà présents, en présenter peut-être quelques-uns pour ceux qui auraient raté la première interview qu'on a faite sur cette antenne ?
Oui, alors parmi les artistes français, pour commencer, nous avons Vincent de Montpezat, qui est un sculpteur designer, qui crée donc des formes en volume, qui propose notamment une relecture de la dialectique du continent qui est très très intéressante. Nous avons Loïc Madec, Thomas Godin, Jean-Bernard Susperegui, un sculpteur sur acier qui cette fois-ci propose des masques sur papier cuit au four. Nous avons également des franco-africains comme Kouka Ntadi, un street artiste, comme également le franco-ivoirien Gopal Danyogo. Et puis nous avons des africains, notamment Chéri Chérin, Soli Sissé, Shula Mosengo. Donc une véritable diversité avec une femme, je tiens à le souligner. Alors ce n'était pas une volonté de la galerie de mettre la femme en dehors de l'exposition, simplement le choix des œuvres s'est fait et en fonction des œuvres disponibles et en fonction de la disponibilité des artistes. Et donc Leslie Amine est pour le moment, jusqu'au 8 avril, la seule femme de l'exposition.
Pour le moment, puisqu'en effet, 5 artistes rejoignent l'exposition à compter du 8 avril. Est-ce que vous pouvez nous les présenter ?
Oui, alors, petit scoop, c'est la première fois que j'en parle. 6 artistes, finalement, vont être là à partir du 8 avril. Vous êtes les premiers à qui je peux en parler. Alors, ces artistes, eh bien, il s'agit de Géraldine Taubé, née en 1992, qui peint à partir de la fumée, de la suie, dans voilà des tentes qu'elle monte à la lueur d'une lampe à huile. Ses œuvres sont extrêmement fortes, vraiment c'est impressionnant, il y a une puissance incroyable. Nous allons également avoir les sculpteurs Didier Hadji et Wabi Dossou et Kifouli Dossou, donc l'oncle et le neveu. Alors Didier Hadji, lui, il décrit des scènes de vie à travers ces sculptures de métal. Ce sont des scènes de vie traditionnelles. Il nous parle de la vie quotidienne. Il nous amène le sens profond de la vie quotidienne dans la sculpture. Et puis les Dossou, donc Wabi et Kifouli Dossou, eux font des masques gélédés. Donc ce sont des masques traditionnels. On est là dans une autre culture. On est dans quelque chose de pratiquement sacré puisqu'on parle de tradition et de royaume. Nous allons avoir également Mounia Youssef qui fait des photographies en noir et blanc, un très très beau travail sur l'action de sublimer la femme, les cheveux de la femme et notamment la femme noire. Et puis le sixième qui s'est joint à nous, c'est un collectif en fait, c'est Idole et Divine qui va présenter des photographies de ce qu'on appelle la philosophie des taxis, c'est-à-dire ces petites phrases qu'on retrouve sur les voitures, notamment au Cameroun, avec une philosophie tout en humour et tout en joie de vivre.
En tout, ça représente plus de 140 œuvres, c'est ça ?
Exactement. Là, on va être à plus de 150 œuvres dans l'exposition.
Comment vous vous y prenez pour aménager toutes ces œuvres dans l'espace Quelcomédia ?
Alors, c'est un gros travail de préparation, évidemment. Il faut imaginer, il faut penser toute cette scénographie. Il faut voir quelles œuvres vont aller avec quelles œuvres, parce qu'évidemment, toutes les œuvres ne peuvent pas se mélanger. On a des courants, des pensées différentes, etc. Donc, c'est tout un travail d'équipe, de réflexion, pour amener un cheminement et un discours cohérent afin que le public, à la fois les amateurs et les collectionneurs, ne s'y perdent pas.
Il y a un fil rouge quand même entre ces artistes, et si oui, quel est-il ?
Le fil rouge, ce qui les rapproche, eh bien, c'est finalement entre guillemets une différence. Le fil rouge de cette exposition, c'est l'idée que chacun puisse exprimer sa vision du continent Afrique. Donc ce n'est pas de l'art contemporain africain, entre guillemets, c'est de l'art contemporain autour du sujet Afrique. Et l'idée est vraiment de permettre à chacun d'exploiter et d'exprimer sa vision, son Afrique.
J'imagine qu'un visiteur qui vient voir l'exposition, du coup, peut à la fois s'immerger dans ce qu'on appelle l'art contemporain, mais finalement va aussi ressortir avec énormément d'informations sur la culture du continent africain, sur la culture des pays dont les artistes sont issus.
Tout à fait. C'est vrai que c'est une exposition très dense où plusieurs thèmes peuvent être abordés en fonction des prédictions, des messages, des envies des artistes. Donc on va parler culture vaudou, on va parler peinture populaire congolaise, on va parler sap, on parle d'engagement pour l'environnement, d'engagement pour l'égalité. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de sujets comme ça qui peuvent être exploités. Et toujours avec cette idée d'une exigence, que ce soit avec nos artistes comme Almaty God, qui est entré dans les collections permanentes du musée du Quai Branly de Jacques Chirac, ou avec ceux qui étaient exposés à la Fondation Cartier ou à la Fondation Louis Vuitton, notamment parmi nos artistes de la peinture populaire congolaise. Donc c'est vraiment quelque chose de dense, mais qui en même temps donne un autre regard sur l'Afrique et permet à chacun de déconstruire un certain nombre de stéréotypes et d'avoir un apprentissage un peu plus important sur le continent.
Une question très pratique, mais comment est-ce qu'on peut découvrir ces œuvres et ces artistes en ce moment ?
Alors en ce moment, la chance que l'on a, nous, c'est que, comme vous le disiez, les musées sont fermés, mais les galeries sont ouvertes. Le principe de la galerie étant d'être un commerce, donc de promouvoir le travail artistique par la vente, ça nous permet d'être ouvert. Au Comédia, on a des horaires bien définis. C'est du jeudi au samedi de 14h à 18h. Le protocole Covid, il s'applique évidemment, le masque, la désinfection des mains, etc. Nous, on a énormément de protocoles qu'on applique, qui nous tiennent à cœur pour protéger la santé de tous. Et puis, on a une jauge de 40 personnes maximum en même temps, simultané dans l'espace, qui nous permet de protéger nos visiteurs, nos collectionneurs.
Vous proposez toujours également des visites guidées ?
Tout à fait. On propose toujours des visites guidées, donc le samedi matin, sur réservation cette fois-ci, en tout petit groupe pour éviter justement qu'il y ait contagion. Donc là, ce sont 10 personnes sur réservation préalable. Et vous avez deux visites par samedi, la première à 9h30, la seconde à 11h. Et puis le 29 mai, la visite de 11h sera remplacée par la troisième visite en breton. On est super fiers et on remercie vraiment tous nos visiteurs et nos amateurs qui nous suivent, parce que les visites en breton se remplissent extrêmement vite, et la troisième visite donc se tient le 29 mai, toujours sur réservation et toujours animée par Thomas Godin.
Vous êtes sur Radio, vous écoutez C'est vous qui le dites. Dans quelques instants, on retrouve Lucille Fontaine du Comédia pour continuer d'explorer avec elle la programmation de la galerie brestoise. Mais avant ça, une pause musicale. On écoute Lee Fields and the Expression avec le titre Two Timer. Lee Fields and the Expiration Two Timer sur le 101.fm. Dans C'est vous qui le dites ce soir, on s'intéresse à la programmation culturelle du Comédia en compagnie de Lucille Fontaine. Ce soir, on s'intéresse notamment à l'exposition Vision d'Afrique. Vous avez pris la décision de prolonger l'exposition. Qu'est-ce qui vous a amené à ça?
Tout à fait. Alors, la prolongation de l'exposition, donc, qui devait se terminer le 3 avril et qui finalement va jusqu'au 24 juillet 2021, c'est une décision finalement qu'on a prise assez rapidement quand on a vu l'ampleur des éloges et l'ampleur des volontés de venir au Comédia. On souhaitait vraiment rendre hommage finalement à nos artistes, mais également à nos visiteurs, à nos collectionneurs. Et donc très vite, la décision s'est imposée d'elle-même finalement de prolonger cette expo-vente.
Le 2 avril prochain, vous proposez Expoésie, une rencontre signature avec le poète slameur et romancier Marc-Alexandre Oobambé. Est-ce que cet événement, il s'inscrit aussi dans l'exposition Vision d'Afrique?
Tout à fait. Cet événement s'inscrit complètement donc dans Vision d'Afrique. L'idée, c'était de proposer au sein du Comédia un événement qui irait plus loin. On adore être une galerie, on a le sentiment que la galerie, c'est bien plus qu'un endroit où on vend des œuvres, où on fait des visites. La galerie, c'est un lieu où on se retrouve, où on partage, où on échange avec les artistes. Et donc dans ce cadre, le poète, slameur et romancier Marc-Alexandre Oobambé, qu'on surnomme un capitaine Alexandre, va venir donc dédicacer son dernier roman, Les Lumières d'Oujda, mais également le livre Fragment que nous proposons à la vente à la galerie. Et il fera, en plus de ses dédicaces, donc l'ex-poésie, c'est-à-dire il déclamera des vers devant les œuvres du Comédia avec un message d'espoir, de paix, toute une réflexion sur l'humanité, et ça promet d'être extrêmement intéressant, extrêmement instructif également.
Est-ce que vous pouvez nous en dire justement un peu plus sur son parcours, sur son travail?
Alors, Marc-Alexandre Oobambé, c'est vrai que c'est quelqu'un qui a plutôt démarré donc avec le slam et l'écriture, la poésie est vraiment au centre de son travail, et puis il a réalisé donc le livre Fragment avec un de nos artistes, c'est pour ça qu'on le propose, à savoir Fred Ebami. Alors ce livre Fragment, qui est comme ils disent un OVNI, c'est-à-dire un objet littéraire non identifié, c'est un livre qui regroupe la musique grâce à un QR code, qui regroupe également l'art grâce aux œuvres de Fred Ebami qui sont représentées à l'intérieur, et puis qui regroupe les poèmes de Marc-Alexandre Oobambé. Et l'ex-poésie, c'est quelque chose qu'il a déjà réalisé, qu'il a déjà tenu, et qu'il va reproposer, c'est finalement une évolution des choses vendredi à venir, vendredi 2 avril.
Je propose pour les auditeurs qu'on écoute un extrait du travail de Marc-Alexandre Oobambé. C'est tout de suite sur le 101.
Revenir à la page. Écrire à la marge des mots, prendre le large du monde, en quête de lumière toujours chercher, creuser, fouiller, trouver en soi paix, silence, étincelle, émoi, tendresse, poème qui aide à transcender le doute et les affres de vivre. Revenir à la page, écrire à la marge des mots, prendre le large du monde. Porter secours à ces rêves, utopies fragiles. Vous savez, ces rêves qui nous gardent fous, alliés, debout, et tiennent nos cœurs zélés, tambours, alliés, à l'écart du cynisme fécond et de la violence sourde, aveugle, qui gronde autour et crève l'abcès de l'absence, les tympans et les yeux des hommes et des femmes qui s'entretuent au lieu de s'entrevivre. Revenir à la page, pas à pas à la vie. Revenir à la page, pas à pas, à la vie, à l'amour, c'est bien de cela qu'il s'agit. Revenir à la page, pas à pas, à la vie, à l'amour, c'est bien de cela qu'il s'agit. Revenir à la page, écrire à la marge des mots. Prendre le large du monde. Revenir à la page. Pas à pas. À la vie. à l'amour. C'est bien de cela qu'il s'agit. Pour ne pas perdre, ne jamais perdre le fil.
Traverser, un regard de Marc-Alexandre Obambé, que vous pourrez retrouver au Comédia pour Ex-Poésie, une rencontre signature le 2 avril prochain de 14h à 18h. Et toujours autour de la programmation du Comédia, le 29 mai prochain, vous le disiez tout à l'heure Lucille, vous proposez une visite en breton du Comédia, de l'exposition en ce moment Vision d'Afrique. C'est la troisième visite de ce type que vous proposez. Qu'est-ce qui vous a donné envie de proposer ces visites guidées en breton ?
Notre idée, c'était de pouvoir faire dialoguer les cultures, montrer que la langue bretonne n'est pas du tout antinomique du continent africain et qu'on peut très bien parler d'Afrique en breton. Et puis, Adeline de Montpezat avait discuté avec Thomas Godin qui parle le breton et voilà, cette idée a germé. C'est souvent comme ça, hein, des hasards heureux, des moments d'échange entre artistes, et galeristes aussi. Enfin, voilà, il y a toujours des moments de diffusion créative, et donc ça nous a donné l'idée de lancer ces visites avec forcément une question de challenge derrière, parce qu'on ne sait jamais comment ça va être accueilli la première fois, et quand on a vu à quel point c'était bien reçu, on était vraiment extrêmement fiers, et donc on a décidé de relancer l'opération tant qu'il y avait encore des visiteurs insatisfaits entre guillemets qui n'avaient pas pu avoir leur place sur les premières séances, et voilà, ça courra jusque à la fin de l'exposition.
Des visiteurs, il y en a eu pas mal ces deux dernières années. En 2021, le Comédia fête ses 2 ans. Qu'est-ce que vous retenez de ces 2 premières années à Brest ?
Alors sur ces 2 ans, on peut retenir plusieurs choses. D'abord, 9 expositions en tout depuis l'ouverture en 2019. Presque 20 000 visiteurs reçus. C'est vrai que la toute première exposition, le Comédia Nu, où il n'y avait aucune œuvre d'artiste hormis le joyau, l'écrin du Comédia, avait regroupé plus de 5000 personnes en 9 après-midi. Donc c'était absolument incroyable.
Il intriguait beaucoup de gens, je crois, ce
exactement. Tout à fait. Alors ça, c'est quelque chose qu'on peut retenir aussi, c'est l'importance du Comédia pour les Brestois qui se sont déplacés en masse et qui continuent de se déplacer énormément pour venir nous voir, pour venir voir le Comédia rouvert. Et c'est quelque chose qui, en cette période de Covid, cette période qui peut paraître instable, eh bien nous porte et nous pousse à aller plus loin et à proposer justement ce type d'événement, que ce soit les visites ou la venue de Capitaine Alexandre. Et sur ces 2 ans, eh bien voilà, on a accueilli beaucoup de monde, on a eu de très belles expositions, on a fait de très belles rencontres avec des artistes absolument formidables. Vision d'Afrique, c'est sûr que c'est ça nous tenait tellement à cœur que on a envie de la porter donc jusqu'à cet été, jusqu'au 24 juillet. Et puis aujourd'hui, on a un petit peu plus de 60 artistes, on est à 63, 64 artistes en tout. 66 même, il me semble, avec les 6 nouveaux arrivés. Donc c'est un véritable plaisir de pouvoir compter sur eux, de pouvoir être là pour eux également, parce que c'est ça aussi la galerie, c'est un lieu un petit peu à la croisée des chemins, et c'est ça qu'on retiendra et qu'on essaiera de faire grandir encore dans les années à venir.
Et d'autres projets justement encore à venir pour les mois à venir après l'exposition 2021-2022.
Oui, alors tout ce qui a trait à 2022, on va le garder encore un petit peu pour nous, et puis on viendra bien sûr avec plaisir vous en dire plus. En tout cas, dans les mois à venir, nous mettons en place actuellement donc des conférences, des causeries d'artistes. On essaye de travailler aussi sur des idées de concerts, etc. Tout dépendra de nos possibilités, de la situation, de ce qu'il est possible de faire dans le contexte. Mais en tout cas, sachez une chose, c'est que le Comédia fourmille d'idées et qu'on n'a pas fini de vous proposer des choses pour faire toujours plus bouger la culture à Brest et pourquoi pas au-delà.
Lucille Fontaine, merci encore d'être venue nous présenter cette programmation.
Merci à vous.
Le 2 avril prochain, vous proposez donc, on le rappelle, Ex-Poésie avec le poète, slameur et romancier Marc-Alexandre Obambé, qu'on a entendu tout à l'heure, donc de 14h à 18h, et c'est gratuit. À partir du 8 mai, 6 nouveaux artistes, j'avais encore
du
le 5.
Du 8 avril.
À partir du 8 avril, pardon. Ouais. 6 nouveaux artistes exposés, donc avec des horaires d'ouverture, vous l'avez dit, du jeudi au samedi, de 14h à 18h, mais on retrouve toutes les informations hein, sur le site du Comédia. Et le 29 mai prochain, une visite en breton.
Exactement.
Merci encore.
Merci à vous.
C'était The Comet is Coming avec le titre Summon the Fire. Vous écoutez C'est vous qui le dites, c'est la quotidienne d'info locale et citoyenne de Radio U. Alors que le printemps vient tout juste de pointer le bout de son nez, aujourd'hui on s'intéresse au Festival Polaire. Un festival qui a ouvert ses portes hier et qui se tiendra jusqu'au 9 mai prochain. Pour en discuter avec nous, Lionel Feuillassier, médiateur scientifique à Océanopolis. Bonjour Lionel.
Bonjour Morgane.
Dans quel contexte s'inscrit ce festival qu'Océanopolis porte avec l'Institut polaire français Paul-Émile Victor ?
Alors, ce festival s'intègre dans le cadre de la 43e réunion consultative du traité de l'Antarctique qui est présidée cette année par la France, vers mi-juin, du 14 au 24 juin. Et cette réunion va regrouper à peu près une 54 pays pour être plus précis. Donc c'est vraiment une réunion diplomatique dans laquelle les grands enjeux vont être discutés, des grands enjeux au niveau des pôles qui concernent l'environnement, la recherche, des enjeux géopolitiques. Et finalement, ce festival Les Mois Polaires, qui est co-organisé par l'Institut Polaire Français et Océanopolis, va permettre de diffuser les connaissances auprès du grand public à travers différents rendez-vous, différents événements.
Le grand public et aussi les plus jeunes, on le disait, le festival il a commencé hier avec un séminaire junior. Comment est-ce que ça s'est passé ?
Eh bien, écoute, cette année, c'est assez particulier. Normalement, ce festival aurait dû être en présentiel. Et, non, il a fallu s'adapter avec la situation sanitaire. Eh bien, tant pis. Du coup, on a proposé un festival connecté. Et donc, hier, effectivement, ce séminaire polaire était connecté. Nous avions 115 élèves qui ont travaillé dans leurs classes respectives sur des sujets très précis en lien avec les scientifiques. Et donc, hier, c'était vraiment la journée de restitution. Alors, c'était des classes de région parisienne, de Grenoble, d'Île-de-Bas. Et les élèves ont, du coup, présenté leurs travaux sous la forme d'une démarche scientifique. Ils ont été notamment écoutés par un jury d'experts et aussi des scientifiques directement connectés depuis les bases du Mont d'Urville et Concordia qui ont pu ainsi interagir avec les jeunes. Et à l'issue de ces présentations, des prix ont été remis aux différentes classes pour leur présentation.
L'Antarctique, ça fait rêver. En tant qu'adulte, on a en tête les grandes explorations, les conditions extrêmes, le blanc à perte de vue. Est-ce que c'est une fascination qu'on retrouve chez les plus jeunes ?
Alors effectivement, ce sont quand même des régions qui font rêver et qui inspirent encore à l'état sauvage. On a vraiment des grandes représentations. Alors, les jeunes, on a bien senti hier qu'il y a une vraie découverte pour ces régions. Des régions qui donnent pas forcément envie pour le caractère très sauvage, très rude finalement du milieu. Mais finalement, une fois qu'on a dépassé ça, on se rend compte que les jeunes se sont vraiment appropriés les thématiques, ont vraiment perçu les enjeux environnementaux, notamment dans un contexte de changement climatique. Et ils sont vraiment devenus, de vrais ambassadeurs des pôles, avec des petits experts qui se sont vraiment exprimés et très très bien exprimés, qui ont très bien perçu les grands enjeux.
Océanopolis participe à de nombreuses initiatives autour de la préservation des océans et des espèces. Est-ce que ce type de journée, vous le disiez déjà un petit peu, est-ce que ce type de journée, c'est aussi un moyen de sensibiliser les plus jeunes à la problématique environnementale ?
Complètement. C'est vrai que nous sommes très engagés pour l'océan et il est très important que les jeunes générations prennent conscience nous vivons sur une terre unique, seule et unique, et que nous ne sommes pas sensibilisés dès le plus jeune âge à la préservation de notre milieu de vie, c'est l'humanité qui, dans un court moyen terme, risque d'en subir les conséquences. Donc il est vraiment important que toute génération confondue, mais surtout les jeunes générations, comprennent des grands enjeux qui vont les concerner dans ces prochaines années.
Vous sensibilisez les plus jeunes, mais pas que. On l'a dit, le Festival Polaire Océanopolis se tient aussi dans le contexte de la prochaine réunion consultative du traité de l'Antarctique. Et l'Antarctique, c'est un territoire complexe. Vous proposez vendredi 2 avril prochain, à 20h30, une conférence qui donne des clés de compréhension. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ?
Alors, c'est une belle conférence, effectivement. C'est même une table ronde qui va être organisée donc vendredi prochain à 20h30, qui sera diffusée en direct sur notre Facebook d'Océanopolis. C'est une conférence alors qui a un titre assez global, « Sciences, géopolitique et gestion des risques », qui va mettre vraiment l'accent sur les risques... l'intérêt de protéger finalement les régions polaires pour des besoins environnementaux, pour des besoins stratégiques, géopolitiques, de préserver vraiment ces régions. Et pour l'occasion, nous aurons différents intervenants, notamment Anne Choquet, Jérôme Chapelage qui est directeur de recherche du Centre polaire français. On aura également avec nous la chance d'accueillir Olivier Lebas, qui est le préfet maritime de la zone maritime atlantique. Et finalement, tous ces interlocuteurs vont pouvoir nous donner des clés, vont pouvoir nous donner aussi leur ressenti sur ces régions qui nous échappent un peu parce qu'elles sont assez éloignées. Et nous, c'est vrai qu'on a besoin d'entendre des personnes d'expérience qui puissent nous parler, qui puissent nous donner finalement leur vécu, leur témoignage pour que nous puissions comprendre aussi les grands enjeux qui tournent autour de ces régions si éloignées de nous.
Donc la conférence, c'est les pôles sciences, géopolitique et gestion des risques. C'est vendredi 2 avril prochain à 20h30 en direct sur le Facebook d'Océanopolis et en replay sur YouTube. Et à suivre également le samedi 3 et le dimanche 4 avril, des émissions en direct d'Océanopolis autour de l'exposition Animaux polaires une vie de scientifique et autour d'une question, comment les animaux nous en apprennent davantage sur le changement climatique en zone polaire? 6 chercheurs viennent traiter la question depuis la salle Antarctica du pavillon polaire d'Ossanopolis. Est-ce que vous pouvez nous présenter ces chercheurs qui viennent?
Alors effectivement, on a une proposition de chercheurs qui est quand même très très riche. Alors nous avons finalement une exposition là qui est toute nouvelle. C'est la première fois qu'elle va être présentée au grand public. Donc c'est un vrai privilège. On est très heureux de pouvoir l'accueillir à Ossanopolis. Elle se compose en 12 totems. Il faut vous imaginer, ce sont des petites colonnes avec des petites caisses en bois, et dans ces petites caisses en bois, eh bien, il y a du matériel scientifique, il y a des magnifiques images d'animaux polaires, et un totem va représenter un animal, et derrière un animal, le travail d'un scientifique. Donc finalement, il y a 12 totems, donc 12 animaux différents, et 12 scientifiques qui témoignent du coup au niveau de ces totems. Alors nous, on va accueillir 6 chercheurs à l'occasion de ces 2 après-midi, et des scientifiques qui sont finalement spécialisés chacun sur un animal. Par exemple, Christophe Guiné, lui, va travailler sur les éléphants de mer. Yann Repère-Couder, lui, va plutôt travailler sur les manchots à Delhi. Cyril Gallu, plutôt les animaux qui vivent au niveau des fonds de l'océan austral. Éric Arminot du Châtelet, lui, cette fois-ci, s'intéresse plus à des petites amibes. Ce sont des organismes microscopiques invisibles à l'œil nu, mais qui sont fondamentaux pour ces écosystèmes. On a encore Isabelle Charrier qui travaille sur les morses et qui enregistre notamment les vocalises, on pourrait dire, des morses. Donc c'est très intéressant. Et enfin Jean-Louis Martin qui lui s'intéresse aux oiseaux de la zone arctique. Donc qui va nous parler notamment des oies arctiques. Donc chaque scientifique va exposer finalement son travail de recherche, mais autour effectivement d'une espèce qui va être ainsi un peu le symbole finalement. Un symbole par totem, quoi.
Donc, ces 2 émissions autour de l'exposition Animaux polaires, une vie scientifique, c'est le 3 et le 4 avril à partir de 14h30 sur Facebook en direct et sur YouTube en replay. Finalement, ces animaux qu'on a cités là, qu'est-ce qu'ils peuvent nous apprendre sur nous?
Eh bien, ils peuvent nous apprendre beaucoup. C'est-à-dire que si on ne réagit pas pour préserver ces environnements, il est acquis que, ce sont des espèces qui, à terme, risquent de disparaître. Et ce n'est jamais bon que la biodiversité régresse à ce point, parce qu'à un moment donné, il est clair qu'il y a l'humanité qui risque d'en pâtir, d'en subir les conséquences. Ça nous montre également que derrière ce contexte de changement global, certaines espèces disparaissent, et d'autres, par contre, on va avoir tendance à se développer davantage, parce que finalement, on comprend aussi que dans ces grandes perturbations, il y a des pressions de prédation qui vont être davantage étalées, diluées à la faveur, par exemple, j'ai envie de dire, d'un territoire qui va s'élargir pour les prédateurs, et donc ils auront accès ainsi à un plus grand nombre de proies, et donc la pression de chasse sera beaucoup moindre, par exemple, sur l'oie de l'Arctique. Et donc l'oie de l'Arctique, c'est un exemple d'une espèce qui ne régresse pas, mais au contraire a plutôt tendance à augmenter, parce que son prédateur, lui, va avoir accès à un nombre de proies un peu plus importante, et donc à moins exercer sa pression de prédation sur l'oie arctique. Mais c'est un exemple parmi d'autres exemples, et il faut quand même reconnaître que beaucoup de ces espèces sont plutôt en voie de régression plutôt qu'en voie d'expansion.
D'où l'importance aussi de sensibiliser le public à ces questions.
Oui, complètement.
Pour le moment, malheureusement, Ossanopolis est toujours fermé au public en raison du contexte sanitaire. Ces émissions, c'est aussi une manière de faire vivre l'exposition afin que le public puisse y avoir accès.
Oui, en fait, il a vraiment fallu complètement se réinventer avec ce contexte sanitaire, et c'est là aussi l'exercice est vraiment très intéressant, parce qu'il a fallu mobiliser les forces en interne pour réaliser des émissions, pour construire des tournages, pour même s'improviser médiateur scientifique, mais surtout journaliste, poser des questions, etc. Donc c'est un travail passionnant qui nous pousse un petit peu dans nos retranchements, qui nous oblige à imaginer de nouvelles formes de médiation. Et donc quelque part, on est en train de voir notre métier évoluer. On s'est énormément équipé à Ossanopolis, notamment avec les établissements scolaires. On a inventé des e-class qui nous permettent ainsi de réaliser des travaux pratiques à distance directement avec les classes. Donc c'est aussi ça qui est passionnant, c'est que quelque part, on a de nouvelles propositions, peut-être un peu plus dans l'air du temps, un peu plus connectées, un peu plus numériques, mais qui sont finalement toujours au service de la diffusion des connaissances avec les différents publics.
Est-ce qu'il y a d'autres projets en cours justement à Ossanopolis en ce moment autour de ces nouvelles méthodes de médiation, ou d'autres projets qui sont en train de voir le jour ?
Alors, pour être tout à fait franc, à Océanopolis, on aime le contact avec nos publics, avec le grand public ou avec les établissements scolaires. Donc, tous les projets que l'on ambitionne pour l'année 2021 sont des projets, on l'espère, en présentiel. Maintenant, effectivement, si on devait continuer à fonctionner en virtuel, on adapterait, comme on le fait notamment avec nos conférences, par du virtuel. Mais c'est vrai que c'est quand même beaucoup plus agréable d'accueillir notre public, de pouvoir échanger directement avec lui. On a des projets formidables, hein, qui sont prévus pour cette année 2021. Jamais l'année 2021 aura été autant créatrice. Pour par exemple les vacances de Pâques, eh bien on avait l'objectif de parler de plastique sur les plages, mais de façon beaucoup très très imagée, très contée. C'était vraiment l'idée, c'était pas de tomber dans l'anxiogène, mais c'est vraiment d'animer le public autour du plastique sur les plages. On avait pour cet été, on a des ambitions de trois dimensions pour cet été, et puis surtout pour la Toussaint, on aimerait bien accueillir un nouveau festival que l'on est en train de créer à Océanopolis, qui s'appelle le festival Les Arts Pulseurs de l'Océan. Et là, l'idée, c'est vraiment que nos visiteurs deviennent des acteurs et qu'ils découvrent énormément d'artistes de disciplines différentes à Océanopolis pendant ces vacances de la Toussaint. En tout cas, voilà, ce sont des très très beaux projets que l'on espère vraiment pouvoir proposer en présentiel.
Ça donne envie, en tout cas. Lionel, merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous présenter le Festival Polaire.
Merci beaucoup Morgane, avec grand plaisir.
Je le rappelle, donc le festival a ouvert ses portes numériques hier. Rendez-vous sur le Facebook d'Océanopolis tout le week-end à venir. Vendredi soir pour la conférence Les Pôles, sciences géopolitiques et gestion des risques à 20h30. En direct donc sur le Facebook et en replay sur YouTube. Et de la même manière, les émissions en direct d'Océanopolis autour de l'exposition Animaux polaires, une vie de scientifique. Et autour d'une question, comment les animaux nous en apprennent davantage sur les changements climatiques en zone polaire. Ça, c'est le samedi 3 et le dimanche 4 avril à partir de 14h30. On retrouve toute la programmation évidemment sur le site et le Facebook d'Océanopolis. Et on espère très vite aussi vous retrouver dans les pavillons d'Océanopolis.
On l'espère aussi.
Merci Lionel encore une fois. À bientôt.
Merci, à bientôt. We'll be right back.
Vous êtes sur le 101.1 FM. À l'instant, c'était Dub Lemon avec le titre Hey You. C'est vous qui le dites, se poursuit avec notre rendez-vous quotidien, notre série de reportages en coproduction avec la Core Lab. Cette semaine, pour l'économie autrement, en partenariat avec le SEIS, la saison des expérimentations et innovations solidaires organisée par Ascoria, l'école des métiers du social, nous vous emmenons à la rencontre des personnes qui construisent l'économie de demain. Plus solidaire, plus éthique et plus humaine. On poursuit ce soir notre découverte du centre de santé communautaire du Blône, un reportage produit par Radio Laser.
L'économie autrement, le rendez-vous quotidien de l'économie sociale et solidaire en Bretagne.
Bonjour.
Bonjour, on
a échangé
café.
Ah oui, excusez-nous, eh bien un petit peu saqué.
Je suis désolée, vous avez coupé en train.
Bah non, c'est bien, c'est la vie quoi, tu vois. Mais il n'y en a plus beaucoup de café, désolée. Ouais, du coup, il faudrait une newsletter, je pense, mail et papier pour les habitants.
À la genèse du projet, ça a démarré à 5.
Ça a démarré à 1 fois 5. En fait, ça a démarré dans la tête de plein de personnes qui se sont retrouvées, enfin qui se sont par affinité regroupées autour du projet. Charlotte Levacon, médecin, Elinor Lapadu-Argue, médecin, Anna Gonzalo, médecin, Claire Terra, médecin, moi-même qui travaillais dans une collectivité territoriale. On avait tous envie de travailler, de créer une structure pluridisciplinaire et pluriprofessionnelle autour de la santé et autour de la santé communautaire. Mes collègues se sont rencontrés, soit dans le cadre universitaire, soit lors de concertations qui ont pu être organisées par la ville de Rennes autour de la santé et autour de la santé au Blône. Et est née donc l'idée de créer ce centre de santé communautaire, de se monter en association. Et ensuite, les dés étaient lancés et on a déroulé le projet jusqu'à l'ouverture, on l'espère, en mars 2021.
Depuis combien de temps vous travaillez dessus ?
Ben, ça fait 2 ans que le projet il est en travail, en réflexion. Il y a eu une accélération avec mon arrivée en janvier en tant que salarié à temps plein. Donc là, ça fera 2 ans. On a été rejoints pendant le confinement, en mars et avril, par un infirmier, une sage-femme et une orthophoniste pour étoffer les réflexions.
Moi, je suis Charlotte Levacon, je suis médecin généraliste et donc je fais partie du groupe de réflexion du projet du centre de santé depuis 2 ans.
Fanny parlait des professionnels qui vous ont rejoint pendant le confinement. Ça vient valider votre idée de départ, de voir que d'autres professionnels adhèrent aussi au projet ?
Ah bah complètement. L'idée, c'est qu'il y ait encore de nouvelles personnes qui nous rejoignent et qui adhèrent au projet et à nos valeurs.
On n'est pas de trop à 10 quand on veut monter un tel projet ?
Bah, effectivement, ça complique l'organisation pour réussir à se fixer des réunions où on se retrouve à tous. On a mis en place des petites cellules de travail. Et puis, faut accepter que parfois, on fait des réunions d'équipe où il manque des personnes. Et c'est comme ça.
Ce reportage a été réalisé par la Core Lab. Retrouvez-le en podcast sur corelab.org.
Demain, retrouvez à la même heure un nouvel épisode de l'économie autrement consacré au centre de santé communautaire du Blône. Merci encore, donc c'est vous qui le dites, c'est fini pour aujourd'hui. Merci encore à Lionel Feuillasser d'avoir pris le temps de nous présenter le festival Polaire qui, on le rappelle, a ouvert ses portes numériques hier. Rendez-vous sur le Facebook d'Océanopolis tout le week-end à venir. Vendredi soir pour la conférence Les Pôles, Sciences, Géopolitique et Gestion des risques à 20h30 en direct sur Facebook et en replay sur YouTube. Les émissions en direct d'Océanopolis autour de l'exposition Animaux Polaires, une vie de scientifique et autour d'une question... Comment les animaux nous en apprennent davantage sur le changement climatique en zone polaire? C'est le samedi 3 et le dimanche 4 avril à venir, à partir de 14h30, toujours sur Facebook, en direct. Retrouvez toute la programmation sur le site et le Facebook d'Océanopolis. Nous remercions également Lucille Fontaine d'être venue nous présenter la programmation culturelle du Comédia pour les semaines à venir, à savoir le 2 avril prochain, retrouvez l'Expo Ezi avec le poète, slameur et romancier Marc-Alexandre O.O. Bambé de 14h à 18h. À partir du 8 avril, 6 nouveaux artistes exposés à la galerie. Vous pouvez d'ailleurs la visiter du jeudi au samedi de 14h à 18h. Il y a également des visites guidées. Toutes les informations sont sur le site du Comédia. Et le 29 mai, une visite en breton. À 19h sur Radio U, retrouvez l'émission Campus Citoyen, l'émission des initiatives de la PEPS. Ce soir, il s'intéresse à Vélo Objectif et Sport for a Smile. Et ensuite, c'est le retour à 21h du chant de l'Alouette. Détricoté chaque dernier mardi du mois à 21h, la chanson française avec Gauthier. Bonne soirée sur le 101.fm.